Jésus vient de laver les pieds de ses apôtres. Tout ce que Jésus devait faire est accompli. Le Maître s'est abaissé devant chacun d'eux pour accomplir un service d'esclave. Il a pris le temps de laver les pieds de chacun, le droit puis le gauche. C'est l'exégèse de ce qui va arriver, l'exégèse de sa glorification à venir. Il explique ce qui va se passer par le geste qu'il vient de faire. La suite ne lui appartient plus, si l'on peut dire. Les disciples ont appris de sa bouche que l'un d'eux allait le livrer aux Juifs. Ils sont tétanisés. Judas sort. C'est le signal. Jésus n'a jamais fait durant toute sa vie que les œuvres du Père. La sortie de Judas semble être pour lui un signal, une indication, la fin d'une attente, un signe du Père. Jésus sait exactement ce que va faire Judas. Il va permettre sa glorification et donc aussi celle de Dieu. Et Jésus veut que nous le sachions. Cette lecture du geste de Judas, du signal, est assez fascinante. Au moment le plus dramatique, à l'heure où tout va bientôt basculer, Jésus annonce sa glorification et celle de Dieu. Tout va bientôt humainement s'effondrer. Et Jésus proclame la gloire de Dieu. Avouez que ce n'est pas banal. En cette période pascale, disait hier Léon XIV aux diplomates, en cette période pascale, nous reconnaissons tout particulièrement que le ressuscité nous précède, même là où l'injustice et la mort semblent avoir triomphé. Nous y sommes. Retenons donc ici que Jésus nous précède toujours, y compris dans chaque drame de nos vies. Jamais il ne nous abandonne. C'est important de savoir actualiser l'Écriture pour nous, maintenant. Maintenant, étymologiquement, ça vient de main et de tenir. Nous lâchons souvent la main, mais Dieu jamais. Qu'est-ce que Jésus a bien pu contempler à cet instant précis et dramatique pour oser proclamer sa glorification et celle de son Père? À l'inverse, qu'est-ce qui nous aurait conduit, nous, à un moment similaire, qui s'est peut-être du reste déjà produit dans nos vies, à proclamer plutôt notre désespoir? C'est la même question, mais à l'envers, si je puis dire. Nous savons, je le disais tout à l'heure, que Jésus ne fait ni ne dit rien qu'il n'ait entendu ou vu chez son Père, car il n'a eu de cesse de nous l'enseigner, donc nous le savons. Et cela nous met sur la piste. Nous savons ce que le Père montre en cet instant à Jésus, puisque Jésus nous le dit aussitôt dans l'Évangile et qu'il ne dit jamais rien qu'il n'ait entendu de son Père. Et que dit-il ? Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Comme pour dévoiler le sens de la glorification qu'il déclare, Jésus focalise notre attention sur un amour inconditionnel qu'il nous demande de nous porter les uns vis-à-vis des autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais où trouver un pareil amour pour nous le donner mutuellement? La question est intéressante. L'amour inconditionnel de Jésus pour nous trouve sa source dans l'amour inconditionnel du Père pour lui. Et le signe indubitable de l'amour du Père pour son Fils est sa présence diaphane, c'est-à-dire qui traverse la lumière, en l'humanité de celui-ci. C'est ce qu'il a dit à Philippe, « Celui qui me voit, voit le Père. » Est-ce que vous voyez le Père là? Ben, changez de lunettes si vous ne le voyez pas. C'est révélé. Le Père est à ce point en amouré de son Fils qu'il demeure en lui. Le fruit de cet amour du Père est en Jésus la parfaite sécurité. C'est l'amen du Père, selon l'étymologie du mot « amen » en hébreu, qui désigne la totale sécurité du tout petit enfant qui repose sur le cœur de sa maman. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, vous pouvez vous retourner et regarder la maman qui porte son petit bébé contre elle en ce moment. Jésus est donc dans une plénitude absolue de sécurité du fait de l'amour inconditionnel du Père pour lui, dont il a une absolue certitude, dont il a fait la constante expérience dans son humanité à chaque instant. Le Père est en lui et il est dans le Père. Jésus ne dit pas cela depuis sa divinité. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. Hein ? Il n'est pas à moitié l'un, moitié l'autre. 100% Dieu, 100% homme. Jésus ne dit pas cela depuis sa divinité. Car il est évident que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un seul et même Dieu. Jésus dit cela depuis son humanité. Il est en constante relation de confiance avec son Père. Son cœur d'homme est embrassé dans l'amour du Père. Et Jésus, qui nous aime passionnément, nous demande de recevoir cet amour inconditionnel du Père pour nous, en notre cœur, afin de le répandre autour de nous, d'un cœur à l'autre cœur, comme signe de notre appartenance christique mutuelle. Jésus a expérimenté dans son humanité que seule cette certitude de l'amour inconditionnel du Père peut conduire chaque homme et chaque femme à aimer jusqu'à se mettre à genoux devant son frère pour lui offrir de le servir, jusqu'à donner sa vie pour celui-ci. Seul cet amour confère la joie, la vraie. C'est ce qui explique cette pressante invitation que Jésus nous fait, ce commandement libérateur d'aimer comme il a lui-même aimé. Comment Jésus a-t-il aimé, pensez-vous peut-être? En puisant tout l'amour dont il voulait nous aimer dans l'amour du Père qui reposait en lui. Jésus n'a jamais rien fait de lui-même, il nous l'a dit. Oui, en vérité, Dieu est si passionnément épris de nous qu'il en a conçu, que Dieu en a conçu une passion rédemptrice du Christ, conformément à ce qu'il désirait. Aimer comme Jésus nous aime, C'est donc se disposer à laisser le Père faire ses œuvres en nous. C'est ensuite renoncer à nos tentations de tout maîtriser, de tout contrôler, jusqu'à l'action même de Dieu en nous. Nous avons cette capacité extraordinaire d'expliquer au bon Dieu ce qu'il doit faire. Ben, va falloir y renoncer, hein ? Sinon, l'amour de Dieu ne pénètre pas en nous et nous ne suivons pas son commandement. Aimer comme Jésus nous aime, c'est choisir la vie sans limite. C'est entrer dans la liberté, c'est entrer dans la vérité. Quant au chemin, nous le connaissons, c'est Jésus. Amen.